Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Une nouvelle édition de l'heure du crime avec Justine Vigneault, avec Laure Broulard et avec Alexandre Cagzan à la technique de l'heure du crime. Et aujourd'hui, à la une, nous revenons ce nom que personne évidemment n'a oublié, nous disait tout à l'heure Christelle Rebière, celui de Jean-Claude Roman, cet homme qui pendant 20 ans a fait croire à tout son entourage, les plus proches, hein, sa famille, ses parents, mais aussi ses amis, et puis ses amis de rencontre, son cercle un peu plus éloigné, qu'il était médecin, tout le monde l'appelait docteur, et en plus, il disait qu'il travaillait comme chercheur à l'OMS. Il avait même un jour montré à sa femme et à ses enfants le bureau dans lequel il était censé travailler sur la façade de l'OMS à Genève. Et puis il y a eu ce drame dont on va évidemment beaucoup parler, qui se déroule quasiment en 24 heures, avec cette famille totalement décimée. En fait, il tue ceux qu'il aime le plus en quelques heures. Et je disais tout à l'heure, il y a encore un mystère de ce côté-là, même pour les psychiatres qui ont pu l'expertiser. C'est un cas de mythomanie extrême, hors du commun. Les mots semblent ne plus avoir de sens. Et évidemment, on s'interroge sur la personnalité de cet homme. Alors, il a été jugé tout à fait responsable de ses actes. Il a été condamné à la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Et pas mal d'auditeurs nous ont demandé de revenir cette année sur cette affaire Jean-Claude Roman, en nous mettant presque tous dans les messages sur RTL.fr. J'ai vu, j'ai lu, j'ai entendu dire que il allait peut-être être libéré au cours de l'année 2015. Alors, pour en avoir le cœur net, ben, j'ai invité les deux personnes. Enfin, une personne connaît ce dossier absolument par cœur, c'est mon confrère Dominique Rizet. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Oui, merci d'être là. Voilà, ça y est, vous êtes avec moi, c'est bon.
Bonjour Jacques. Oui. J'étais en train de relire le dossier, je découvre un truc complètement.
Non, je suis bien parce qu'avec la vie que vous menez, un pas dans l'heure de, dans fait entrer l'accusé, un autre sur BFM TV où vous êtes.
Je
toujours,
ne suis qu'à RTL.
Oui, d'accord.
Je suis donc à RTL
bien,
avec vous.
D'accord. Vous connaissez très très bien et vous êtes passionné pour cette affaire.
Ah oui, c'est une histoire hallucinante.
Et près de vous, et je voudrais dire, c'est vous qui avez eu, qui m'avez donné l'idée. Je suis très content de retrouver Patrick Guillemin. Bonjour.
Bonjour.
On s'était croisé dans d'autres émissions. Il faut dire tout de suite que vous avez fait 23 ans de prison dans, oui, dans votre vie, dans 11 ans
à l'isolement,
à la suite d'une évasion spectaculaire. Vous étiez, on va pas faire un dossier Guillemin, hein, je vous le dis tout de suite, mais simplement pour que ceux qui vous écoutent maintenant puissent comprendre. Un jour, vous êtes allé chercher quelqu'un qui était incarcéré à la prison des Bobettes à Marseille. Ça s'est terminé dans un drame parce que cet homme-là que vous étiez venu chercher est mort. Et puis, comme on dit, vous avez payé votre dette à la société après toutes ces années, et vous avez même eu, et c'est ce qui nous avait fait nous rencontrer à l'époque, comme témoin de mariage, le policier qui vous avait arrêté.
Hein. C'est ça.
Alors, l'idée de vous inviter, c'est donc Dominique Rizet qui me l'a suggéré, parce qu'il me dit, mais Patrick Guillemin, dans toutes ces années de prison, pendant 2 ans, a été voisin de cellule de Jean-Claude Roman. C'était à quelle époque?
C'était en 2007 et 2008.
Oui.
Il était en face de ma cellule.
Mm-hmm.
C'est quelqu'un.
Vous connaissiez son histoire quand vous êtes,
oui,
arrivé, ou quand il est arrivé, évidemment.
Bien sûr.
Oui.
Bien sûr. Non, il était déjà là quand je suis arrivé.
Mm-hmm.
Bien sûr, tout le monde connaît son histoire.
Mm-hmm.
Bien sûr.
Vous aviez une idée du personnel. Vous posiez des questions sur comme celle que je viens d'évoquer à l'instant.
Oui, je me suis surtout posé des questions quand je l'ai vu, parce que ça correspondait pas du tout. Il correspondait pas du tout à l'image qu'on pouvait avoir de lui, hein, en sachant tout ce qu'il a fait.
Oui.
Évidemment.
Alors, on parlera un peu plus complètement tout à l'heure de ces années, puisque vous avez passé quoi 2 ans, hein, à peu
deux
près,
ans.
Donc très proche de Jean-Claude Roman. Mais vous allez nous apporter tout de suite une précision. On en parlait juste avant de commencer l'émission. En fait, les auditeurs qui nous disent il va être libéré certainement en 2015 se trompent.
Oui, complètement, parce que j'entends souvent dire que perpète, il n'y a pas de perpète. Quand on est condamné à perpétuité, c'est perpétuité. Maintenant, au bout d'un certain temps, quand on a une, la sûreté, par exemple, là, on dit que Jean-Claude Roman va être libéré en, 2015. C'est parce qu'il a été condamné à perpétuité avec 22 ans de sûreté. Voilà. Comme il a été condamné en 93, oui. Ça fera
mais,
donc...
96, mais les faits remontent à 93.
Oui, 93.
Et ces années-là comptent
bien
aussi.
Sûr, hein, bien sûr. Donc, effectivement, à partir de... Au bout de 22 ans, il peut prétendre à demander quelque chose. Maintenant, perpétuité, c'est perpétuité. J'ai connu des gars, c'est 39 ans, 40 ans qu'ils étaient en prison. Et c'est pas parce qu'il a fini sa peine de sûreté qu'il va sortir. En général, il peut demander au bout de 22 ans à sortir. Mm-hmm. Mais en général, on commence à s'intéresser à lui 4-5 ans plus tard. Quoi.
D'accord, donc ça c'est clair et net. Jean-Claude Roman ne sortira pas l'an prochain. Dominique Rizet, je vous retrouve avec Patrick Guillemin dans un instant. On va faire une première pause dans l'émission. Ensuite, je vais rappeler en quelques instants pour que ceux qui se souviennent du nom de Jean-Claude Roman, mais plus très bien de ce qui s'est passé en 93, je vais proposer de rafraîchir la mémoire. Et puis ensuite, on explorera ensemble ce dossier, on essaiera de répondre à toutes les questions qu'on se pose encore sur cet homme.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Nous sommes le samedi 9 janvier 1993 à Prévessin-Moëns, un petit bourg français à quelques kilomètres de la frontière suisse. Aux premières heures de la matinée, celui que tout le monde appelle alors le docteur Roman, unanimement respecté, admiré comme un chercheur de pointe de l'OMS depuis 18 ans, cet homme vient de tuer sauvagement son épouse Florence à coups de rouleau à pâtisserie. Il a ensuite fermé la porte de la chambre conjugale et puis il est monté à l'étage. Lorsque les enfants Caroline et Antoine se sont réveillés, il leur a demandé de ne pas faire de bruit parce que, leur a-t-il dit, maman dormait. Et il les a accompagnés dans le salon. Alors il a glissé une cassette vidéo des trois petits cochons dans le magnétoscope. Il s'est assis entre eux sur le canapé et il les a longuement, très longuement câlinés. Plus tard, comme papa médecin, il les a trouvés un peu chauds. Il leur a dit qu'il allait prendre leur température. Il a demandé à Caroline d'abord de monter dans sa chambre et de s'allonger sur le ventre. Il a joué à lui mettre son oreiller sur la tête. Il lui a tiré à bout portant un coup de carabine 22 long rifle équipé d'un silencieux. Il a ensuite appelé Antoine et il a recommencé. Il a remonté la couette sur le corps des deux enfants. Et puis il est redescendu, il est sorti acheter les journaux et il a relevé son courrier dans la boîte à lettres à la porte du jardin. En fin de matinée, Jean-Claude Roman les a empaqueté sa carabine. Il est monté dans sa voiture, il a parcouru les 60 kilomètres qui le séparaient de la maison de ses vieux parents dans le Jura. Il a déjeuné avec eux et il a demandé à son père à un moment de venir examiner avec lui à l'étage une gaine d'aération défectueuse qu'il faudrait certainement réparer. Le vieil homme s'est agenouillé pour examiner la pièce et Jean-Claude Roman lui a tiré 2 balles dans le dos. Et puis il est redescendu, il a encore tiré sur sa mère cette fois, et puis il a aussi exécuté le Labrador. Ensuite, il est remonté dans sa voiture, il a pris la direction de Paris. Paris, où il devait retrouver sa maîtresse Chantal. Il lui avait dit au téléphone qu'ils iraient ce soir-là dîner dans la maison de campagne de son ami Bernard Kouchner, quelque part, dit-il, près de la forêt de Fontainebleau. En traversant la forêt, il avait fait semblant de ne pas retrouver le bon chemin, il avait arrêté la voiture dans une clairière et il avait aspergé Chantal de gaz lacrymogène. Ensuite, il a tenté de l'étrangler. Alors à ce moment, elle se débat, elle lui échappe, elle le supplie de ne pas le tuer et Jean-Claude s'effondre en larmes. Il la ramène chez elle, il lui fait promettre de ne rien dire à personne. Au petit matin du dimanche 10 janvier 1993, Jean-Claude Roman est de retour dans sa maison de Prévessin. Il passe toute la journée devant la télévision. Tard dans la nuit, vers 4h du matin, il asperge d'essence le grenier, les corps des enfants, celui de Florence. Il se met en pyjama, il absorbe un cocktail de somnifères et de barbiturique et puis il met le feu à la maison. Les pompiers arrivés très vite sur place découvrent les cadavres dans la maison en flammes. Jean-Claude Roman vit encore, il est plongé dans un coma profond, il est conduit dans un état quasi désespéré à l'hôpital cantonal de Genève. Et dès le début de leur enquête, les gendarmes vont découvrir un message manuscrit qui se trouve dans la BMW de location de Jean-Claude Roman. Ce message dit ceci, je cite, « Un banal accident et une injustice peuvent provoquer la folie. Pardon. » Quelques heures plus tard, les enquêteurs feront une seconde découverte au siège de l'EMS à Genève où ils se sont rendus. Contrairement à ce qu'il avait toujours dit, il constate que le docteur Roman ne figure pas sur la liste du personnel. Le docteur Roman n'existe pas, il a interrompu ses études en deuxième année, il n'a jamais passé son diplôme.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et le mardi de juillet 1996, trois ans après, il sera condamné donc à la réclusion à perpétuité. Nous revenons sur l'ensemble de ce dossier avec Dominique Rizet et avec Patrick Guillemin qui a été son voisin de cellule pendant 2 ans.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Faux médecin, double vie, l'histoire incroyable du docteur Jean-Claude Roman qui avait interrompu ses études de médecine en deuxième année, qu'il avait caché à tout le monde et tout le monde pensait qu'il était médecin et de plus médecin à l'OMS. Dominique Rizet, tout à l'heure je posais la question à Patrick Guillemin mais pas tellement à vous sur cette affaire en tant que spécialiste, on va dire, entre guillemets, des faits divers et des affaires criminelles. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette affaire? Elle reste unique en son genre.
Elle est unique. Elle a donné lieu à un livre qui s'appelle L'Adversaire. Elle est incroyable. Elle est machiavélique.
Emmanuel Carrère.
Emmanuel Carrère. Elle fait froid dans le dos. La détermination, la froideur, la préparation, le cynisme ensuite de Jean-Claude Roman, c'est mensonge. Pendant 6 jours, il a prémédité les meurtres de sa femme,
De tout
Florence,
le monde,
de ses
enfants,
deux enfants. Voilà. Ouais. Il a su de son père, de sa mère, du chien, de sa maîtresse, tentative de meurtre sur sa maîtresse. Oui. Et puis il y a un autre meurtre aussi qu'on a oublié peut-être.
Précédent, oui, c'est précédent. Son beau-père.
1988.
Ça, ce sont les enquêteurs qui, en remontant temps, parce qu'après, on a essayé de tout savoir, évidemment, de la vie de cet homme, on est tombé sur un événement que
incroyable.
Vous pouvez nous rappeler ce qui s'était passé.
Ah oui, tout à fait. En 1988, il va bénéficier d'un non-lieu pour ça, Jean-Claude Roman. Jean-Claude Roman aide son beau-père, Monsieur Crollet, à faire des travaux dans sa maison. Ils ne sont que tous les deux dans le garage. Son beau-père va tomber d'une trappe. Et se faire mourir d'une fracture du crâne. Et c'est juste après que ce beau-père ait demandé à Jean-Claude Roman de lui rendre l'argent qu'il lui avait, les intérêts de l'argent qu'il lui a confié. 378 000 francs à l'époque.
Ouais. Parce qu'il plaçait de l'argent, effectivement. C'est comme ça qu'il gagnait sa vie, parce qu'il partait le matin, il rentrait le soir.
Il escroquait tout le monde.
Tout le monde pensait qu'il était à son cabinet de médecine ou dans son labo de chercheur.
Il fallait faire vivre une famille entière. Alors, il a, si on fait ça rapidement, il a emprunté 900 000 francs à sa maîtresse. Il a vidé tous les comptes de ses parents. Il avait des procurations sur les comptes de ses parents, il les a vidés.
Au fil de toutes ces années.
Il a vendu un studio qui appartenait à ses parents, 300 000 francs. Il a vendu des médicaments,
prétendument anticancéreux.
Absolument, anticancéreux, disait-il. Il a emprunté 378 000 francs à son beau-père en lui disant, voilà, je te rendrai l'argent. Donc son beau-père lui réclame au moins les intérêts en 88. Et il tombe sur la tête. Ensuite, évidemment, comme son beau-père est mort, Pierre Crollet, la maison va être vendue par la famille. 1 300 000 francs. C'est lui qui récupère l'argent et qui dit j'ai des placements à 10% en Suisse, donc il va partir aussi avec les 1 300 000. Il emprunte 10 000 francs à son beau-frère, 100 000 francs à son oncle Claude, 60 000 francs à sa tante par alliance Elisabeth. Il a tout dépensé et à un moment acculé parce qu'il faut rendre.
On sait comment il dépense cet argent. C'est beaucoup d'argent là. Il ramenait son salaire à la maison, puisque sa femme n'a jamais rien soupçonné pendant tout.
Sa femme ne s'est jamais posé de questions. L'instruction le dira sur le fait qu'il ne déclarait pas d'impôts. Elle le savait. La famille ne déclarait pas d'impôts, mais ne s'est jamais posé de questions là-dessus. C'est-à-dire que jamais dit à son mari, mais attends, tu gagnes ta vie, t'es médecin, on ne paie pas d'impôts.
Mais jamais le fisc non plus s'est intéressé à lui.
Non, parce qu'en fait, il était inexistant pour le fisc.
Ouais.
Il était un vieil étudiant qu'on a oublié, qui travaillait pas, quoi. C'était quelqu'un qui n'existait nulle part, quoi. Pas de travail, et j'imagine qu'il n'avait même pas de sécurité sociale. D'ailleurs, je sais pas comment ça se passait à ce niveau-là. Ce serait intéressant. Ouais. Mais voilà, quoi. Donc, il lui fallait de l'argent, mais vous savez, en même temps, sur 20 années d'une vie, d'une famille, l'achat d'une maison, tout cet argent, il est dépensé. Il partait le matin, s'arrêtait sur des aires d'autoroute et lisait des bouquins de médecine et les journaux dans sa voiture. Et il rentrait le soir.
À tel point d'ailleurs que quand au cours de dîner, il discutait avec des vrais médecins, eh bien les vrais médecins étaient persuadés d'avoir parlé avec un confrère. On en parlera tout à l'heure, mais d'abord je reviens à vous, Patrick Guillemin. Je vous ai vu tout à l'heure pendant que j'ai rappelé cette horreur, quoi. Ces scènes d'horreur sont déroulées en moins de 24 heures où il tue sa femme, ses enfants, ses parents, son chien, etc. Et où il tente de suicider. Et vous m'avez dit hors micro après, c'est pas l'homme. L'homme qui était mon voisin de cellule n'a rien de commun avec le monstre qui a fait ça, quoi.
C'est évident. Quand vous avez relaté tout ça, ça me surprend encore, quoi. C'est pas du tout. Moi, j'ai encore l'image de Jean-Claude. C'est vraiment le brave type, quoi.
Pour vous, c'est le brave type.
Brave type. Jamais un moment d'humeur. Ouais. Toujours assez humble, assez très discret, très gentil, toujours à vouloir rendre service et tout. Et puis voilà, très catholique. Il avait dans sa cellule, il avait des images pieuses, la Vierge Marie, etc. Le dimanche, le matin, il regardait sur
la messe à la télé.
La messe à la télé, ouais. C'était quelqu'un de très jamais eu un mouvement d'humeur, jamais. Pour moi, c'est impensable que ce gars-là ait été capable d'être violent, quoi.
Ouais. Et pourtant, on le sait, quoi. Vous voulez ajouter quelque chose?
Quand on l'arrête, quand on le questionne, quand les policiers le questionnent, voilà ce qu'il leur répond, parce qu'il va nier pendant 12 jours. Quand même, on ne tue pas son père et sa mère. Pourquoi faire? D'abord, en tant que chrétien, puis comme être humain. C'est le deuxième commandement de Dieu.
Oui.
C'est acté, c'est sur procès verbal, c'est ce qu'il a répondu aux policiers.
On parle des affaires qui ont, quand on est en prison, est-ce qu'il est évoqué son affaire ou
non? En général, enfin, non. Si, ceux qui parlent de leurs affaires sont plutôt les truands qui se vantent un petit peu. Mais ce genre de choses, non. Moi, j'ai jamais parlé avec Jean-Claude de ça. De lui-même, spontanément, il me parlait de ses enfants, de sa femme. Ça me surprenait. Je me souviens une fois, je parlais de ski et il me disait, tiens, j'allais au ski avec ma femme et mes enfants. On allait là. De lui-même, il m'en parlait comme si c'était. Moi, ça me surprenait, quoi. C'est quelqu'un qui sortait jamais. Il travaillait à la prison, enfin à la centrale.
Et qu'est-ce qu'il faisait comme travail, vous le savez?
Il était ingénieur du son. Il y a à la centrale de Saint-Maur, il y a quelqu'un qui s'appelle Nicolas Frise qui a installé un atelier son.
Qui est un musicien.
C'est un musicien au départ, oui. Mais son travail, il numérise tout ce qui vient de l'INA, vous savez, toutes ces choses-là.
Oui, les archives de l'INA.
Les archives, il numérise. Alors, il forme des détenus. Il y a une quinzaine de détenus qui travaillent à l'atelier son et qui s'occupent de ça. Et Jean-Claude travaille dedans. Il travaille dans cet atelier. Et voilà, il est dans son atelier, il retourne dans sa cellule et puis il sortait jamais. Moi, je le forçais à sortir le dimanche. Il sortait pas beaucoup, sortait en promenade dimanche matin, mais c'était toujours, il fallait le forcer quand même, parce qu'il voulait pas trop.
Alors pourquoi? Est-ce qu'il avait peur de quelque chose? Parce que, on peut en parler encore un peu, on sait, tout le monde sait, que, en prison, par exemple, ceux qui ont, tué des enfants, doivent faire très attention à eux, parce que souvent, ils ont, de graves soucis, non, en prison. C'est toujours le cas.
Oui et non. En maison d'arrêt, mais pas en centrale. Mmh. En centrale, c'est très particulier. Mmh. Disons que
centrale, ce sont les longues peines. Donc,
quand vous êtes centrale, c'est qu'il vous reste plus de 10 ans à faire au minimum. Mmh. Général, c'est les perpètes, choses comme ça.
D'accord.
Et vous vous installez. Si jamais vous avez un problème, vous êtes transféré. La centrale, c'est particulier. Vous êtes libre en centrale. On vous ouvre la cellule à 7h du matin.
Oui.
On la referme à midi.
Oui.
Vous mangez à 13h, on la rouvre jusqu'à 19h30.
Oui.
Et tout le temps où il vous ouvre la cellule, ben vous pouvez aller où vous voulez, vous allez à la bibliothèque, au sport, aux ateliers, enfin faites ce que vous voulez. Ouais. Vous êtes très libre. Alors qu'en maison d'arrêt, c'est pas du tout pareil.
C'est pas la même chose.
Et
lui donc ne craignait personne. Enfin le fait qu'il ait tué.
En centrale, vous installez dans une cellule. Vous savez que vous allez faire des années, des années. Il y en a qui mettent des lambris dans leur
oui.
Voilà.
Pour aménager.
Vous installez complètement. Ouais. Le jour où vous avez un problème, ben vous êtes transféré. Transféré, vous retournez en prison, la Fresne en général, c'est très dur la prison, enfin la maison d'arrêt, c'est totalement différent.
Parce que là, c'est la cellule 24h/24.
Et il vous faut au moins 2 ans avant de retrouver une place dans une autre centrale. Donc,
On va continuer à parler de tout ça ensemble dans un petit instant après cette pause.
L'heure du crime sur RTL.
Et nous revenons aujourd'hui dans l'heure du crime sur l'affaire Jean-Claude Roman, dont le nom est resté évidemment dans toutes les mémoires, peut-être à cause du livre d'Emmanuel Carrère, L'Adversaire, dont on parlait tout à l'heure, ou plus exactement L'Adversaire était le titre d'un film de Nicole Garcia d'ailleurs, avec Daniel Auteuil hein, dans le rôle principal, et Emmanuel Carrère avait raconté l'histoire. Puis il y a eu aussi un documentaire d'ailleurs de Gilles Cayatte et de Catherine Herrel. Je le dis comme ça parce que je trouve que ce sont d'excellents documentaristes et ils ont fait, un documentaire qui s'appelait Le Roman d'un menteur, où ils ont fait parler tous les témoins qui ont accepté de parler, si vous voulez, Dominique Rizet. Alors, il y a eu des moments au cours du procès de Jean-Claude Roman, au fur et à mesure de l'enquête, pendant l'instruction, presque tous les jours, on en savait un peu plus, et c'était un peu plus gros chaque jour, ce qu'on découvrait sur les mensonges, les escroqueries de Jean-Claude Roman. Et puis il y a eu le procès, il y a eu ce moment terrible où il a raconté ce qu'il avait fait, et ça a occupé toute une audience. Et l'autre moment important, je ne sais pas si vous étiez au procès, vous,
non,
à l'époque,
pas suivi
mais
le procès, non.
L'autre moment vraiment très très intéressant, c'était le moment où les psychiatres sont venus à la barre pour répondre aux questions qu'on leur avait posées. Mais qui est ce type? Est-ce que il était conscient ou pas de ses actes au moment où le drame a eu lieu? Et nous avons retrouvé dans les archives de la rédaction d'RTL ce document qu'on va entendre. C'est à l'époque Jean-Claude Larivoire qui suit le procès pour RTL. Et justement, il fait son papier ce jour-là sur la perplexité, on va dire, des psychiatres qui viennent déposer à la barre.
Avec le langage du bon sens populaire, on dirait qu'il est à demi-fou. Ainsi s'est exprimé à propos de Roman le docteur Laurent, l'un des psychiatres venu faire son rapport devant les jurés. Mais a-t-il précisé, comme d'ailleurs tous ses collègues, l'accusé n'a pas agi en état de démence, il n'a jamais été privé de son discernement, même si ses troubles de personnalité sont incontestables. Tous les hommes de l'art venus à la barre sont d'accord pour qualifier le quintuple assassin de mythomane narcissique. Narcissique, cela signifie, explique le docteur Pierre Lamotte, qu'il a besoin constamment d'être rassuré par le regard des autres. Ainsi, lorsqu'il a pris conscience que la vérité tuerait ses parents, eh bien il les a tués pour ne pas les décevoir. L'expert s'empresse d'ajouter, avec une modestie qui lui fait honneur, « Vous savez, la psychiatrie n'explique pas tout ».
Voilà, donc on comprend, hein, Dominique Rizet, que la perplexité des gens à qui on demande peut-être des questions impossibles, auxquelles il est impossible de répondre. Finalement.
J'ai quelque chose sous les yeux là qui a été écrit par le docteur Pierre Lamotte, le psychiatre. C'est pas très long, ça fait 5 lignes.
Allez, lisez, je vous en prie.
L'examen psychiatrique de Jean-Claude Roman met en évidence une personnalité narcissique, avec un fonctionnement dans l'idéal et de fortes composantes phobiques qui ont amené, jointe à une habileté perverse, parce qu'il est habile, la création d'un personnage grandiose qui l'a soutenu de manière mythomaniaque dans une fuite en avant perpétuelle pendant des années jusqu'à essayer d'effacer son histoire. En faisant disparaître les protagonistes.
Alors, je ne veux pas dire du mal du docteur Lamotte, mais en fait, il nous dit ce qu'on sait de ce qu'il a fait, quoi.
Oui, oui.
Mais le pourquoi demeure un mystère. Enfin, le pourquoi.
Il n'a pas eu le courage, Jean-Claude Roman, à un moment de sa vie, il n'a pas eu le courage d'affronter les autres, de dire à sa femme, voilà, j'ai menti depuis 20 ans à ses enfants, à ses parents. Donc tous ceux auxquels il aurait fallu qu'à un moment il fasse cette confidence en leur disant, je suis un imposteur, je vous ai fait vivre dans la posture, eh bien, il les a supprimés plutôt que leur dire la vérité. Imaginez, bon, et la préméditation est impressionnante. Dans les jours qui précèdent ce samedi 9 janvier où il va les tuer tous, ce qu'il
met
a fait
au point
avant,
son scénario.
Il est allé acheter les jerrycans d'essence, il est allé acheter le silencieux pour la carabine, des balles, il est allé acheter un boîtier de défense électrique parce qu'il va tenter aussi de tuer sa maîtresse, vous l'avez raconté.
Oui, il a tenté de l'étrangler dans la forêt de Fontainebleau. Ouais.
Avant, il va lui donner un coup de décharge électrique pour, et il va lui dire, il lui a acheté un collier. Il va lui dire, ferme les yeux. J'ai un cadeau pour toi. Et au lieu de lui passer le collier, il lance dans les yeux de la bombe lacrymogène. Et ensuite, il essaie de l'électrocuter. Oui. Donc, elle hurle, elle crie. Oui. Et là, il va l'épargner.
Oui.
Donc, tout est prémédité, tout est...
Et c'est elle, alors, on n'a pas posé la question depuis tout à l'heure, est-ce que les auditeurs nous l'a posé, c'est elle qui a alerté la police, qui a porté plainte, comment l'histoire a été...
On est remonté à elle parce qu'en fait, il faisait de fréquents voyages à Paris pour venir la voir, et puis qu'on va savoir qu'il a eu de l'argent qui lui était prêté par celle qui d'abord est présentée comme une amie, mais qui a été sa maîtresse. Voilà.
Donc,
comment on remonte.
Elle n'a rien dit pendant le laps de temps en fait le drame s'est noué.
Non.
Et ensuite, il faudra, mais ça, on reviendra peut-être tout à l'heure sur cet aspect-là, parce que l'accusation a toujours laissé entendre que le suicide du docteur Roman était un faux suicide et qu'il avait calculé son coup, etc. Alors, ça, on en parlera, si vous le voulez bien, tout à l'heure. Je voudrais qu'on revienne on n'a plus le temps de revenir là où je voulais en aller. Ben, on va faire une pause et puis on va se retrouver dans quelques instants. Et on entendra un papier de Jean-Claude Larivoire qui suivait donc le procès, ce que vous m'apprêtez à vous faire entendre, sur le dernier jour du procès, sur le verdict et ce qu'a dit à la cour après avoir entendu le verdict Jean-Claude Roman.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et nous sommes en compagnie aujourd'hui du journaliste Dominique Rizet et de Patrick Guillemin, qui nous l'a expliqué tout à l'heure, a été le voisin de cellule de Jean-Claude Roman pendant deux années. On va revenir dans un instant sur la personnalité très complexe qui a posé des difficultés déjà aux psychiatres, mais qu'on pose aussi à ceux qui, comme Patrick Guillemin, étaient son voisin pendant toutes ces années. Et auparavant, avant, je voudrais qu'on entende une archive RTL qui date du 3 juillet 1996. En fait, ça, c'est le jour du verdict dans le procès de Jean-Claude Roman. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Et Jean-Claude Larivoire, sur RTL, qui suit le procès donc pour notre station, revient sur les toutes dernières déclarations de l'accusé.
Jean-Claude Roman était-il sincère dans son ultime déclaration sur le thème de la demande de pardon ? En tout cas, une femme jurée n'a pas caché ses larmes, ce qui explique peut-être les 22 ans de sûreté par rapport aux 30 demandés par le ministère public. Celui que tout le monde qualifie d'imposteur pathologique avait à cet instant tous les accents de la sincérité en s'adressant à ceux qu'il a tués. Toi ma Florence, toi ma Caro, toi mon Antoine, toi mon papa, ma maman, vous êtes dans mon cœur, votre présence invisible ici me donne la force de vous demander pardon pour avoir brisé votre vie et celle des autres qui vous aiment. Ainsi s'est conclu un procès frustrant où l'on aurait aimé apprendre comment et pourquoi ce massacre a germé dans son cerveau. Cerveau d'un malade qui aimait par-dessus tout sa famille, a plaidé son avocat Maître Abad. Mentalité et comportement d'escroc, a affirmé de son côté l'avocat général, escroc pour lequel le mobile le plus sordide, l'argent, ne fait aucun doute. Les yeux rivés au sol, Roman a subi l'interminable et implacable réquisitoire. Sans doute mûrissait-il déjà son spectaculaire pardon.
Alors, on revient à Dominique Rizet dans un instant, mais Patrick Guillemin, tout à l'heure, vous nous disiez, bon, je vois pas un monstre, mais ça, on peut le dire de beaucoup de gens qui se trouvent condamnés pour des choses très très lourdes. Hein, on en parlait hors antenne, tous les deux. Mais pour revenir au comportement là de Jean-Claude Roman, un jour, il y a une émission de télé qui lui est consacrée. Et c'est lui qui vous le dit le lendemain, il vous en parle ?
Oui, curieusement, c'est quelqu'un d'assez humble, assez discret, mais il pouvait pas s'empêcher régulièrement. Il me disait, tiens, il parle encore de moi dans un journal, dans une émission, quoi.
Mais sur quel ton il dit ça ? C'est bah, juste, tiens, on a encore parlé de moi ?
Non, ou... pas, ouais, l'air un peu... pas ennuyé, mais en même temps, il venait me le dire, quand même.
Ouais.
Et un jour, il me dit, ce soir, il recommence encore une fois, il y a un fait entrer l'accusé. Ouais. Bon, le soir, je regarde fait entrer l'accusé, et je me souviens, la première image fait entrer l'accusé, on voit une photo d'une belle famille, une femme très jolie, des enfants hilares et tout. Ouais. Et moi, j'imagine Jean-Claude en train de regarder ça, quoi.
Très ému, quoi.
En face. Ouais. Et je me dis, oh, il va se pendre, c'est pas possible, on peut pas entretuer quelqu'un. Après se rendre compte, enfin là, on lui mettait en pleine figure, quoi, toute sa famille. Et après, bon, l'émission se passe et tout. Mais franchement, j'essayais de me mettre dans sa tête. Je me demandais comment il allait gérer ça, quoi. Et le lendemain matin, on est sorti, il est venu me voir, il m'a dit, alors t'as regardé, il avait pas un cerne de plus, rien,
ouais.
Rien. Cette je sais pas comment il faisait, je sais pas, on dirait, c'était pas la même personne, quoi.
Comme si c'était quelqu'un d'autre qui avait fait ça et qu'il était lui-même devenu spectateur de...
Comme je disais tout à l'heure, couramment, il me parlait de sa femme et de ses enfants, normalement, quoi.
Comme s'ils étaient encore
là. Ouais, en chaud, mais tiens, j'étais là avec mes enfants, etc. Ouais. C'est ce qui m'a le plus surpris et finalement, c'était assez, ouais, c'est très particulier quand même, très particulier.
Vous voulez dire par particulier, inquiétant,
inquiétant, ouais, c'est ça.
Dérangeant, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Il était, je crois que c'est ce qui m'a le plus impressionné. J'ai vu des monstres en prison, mais cette espèce de distanciation, cette espèce de, c'est ce qui m'a le plus impressionné, ouais.
Et vous, Dominique Rizet, c'est vous qui aviez fait cette émission avec Christophe Ondelat, je pense, à l'époque.
Moi, un des trucs qui m'a fasciné dans le personnage, c'est son intelligence. Quelqu'un nous a dit, un psychiatre nous a dit, mais ça n'apparaît nulle part que s'il avait mis son intelligence au service de la médecine, vraiment parce qu'il était très doué.
Hein, on sait pourquoi il a échoué à ses études de médecine.
Bah,
parce
on a ça.
Comment un type très intelligent et doué va finir par ne pas. Je crois qu'il a blogué, il a passé X fois sa deuxième année de médecine. Il a toujours été rétamé.
Alors oui, il a passé. Alors j'ai ça dans ce dossier. Il est allé jusqu'en deuxième année et donc ensuite il a échoué.
Et il s'est présenté plusieurs fois.
Il s'est présenté plusieurs fois et il a suivi les cours de la troisième, quatrième, cinquième année. Il est resté. Il allait à la fac. Quoi, il suivait les cours. Et sa femme le voyait à la fac.
Oui.
Et mais il disait à tout le monde, j'ai réussi mes examens. Donc on sait que dans la multitude ensuite des étudiants, ça se sait, ça ne se sait pas. Bon voilà. Mais j'ai réussi. Donc il est allé jusqu'en cinquième, sixième année. Il a pris le temps de faire ses études où il ne passait aucun diplôme, aucun examen et pour cause.
Oui, bien sûr. Mais et après, il n'a pas ouvert de cabinet et pour cause parce qu'il ne pouvait pas.
Absolument.
Mais il a dit, j'ai été embauché à l'OMS.
À l'OMS, donc c'était donc, quelque chose d'une nébuleuse. Voilà. Il montrait son bureau du doigt. Et puis c'était de l'autre côté de la frontière. Ce qui lui permettait aussi de passer d'un pays, de la France à la Suisse.
Et peut-être avec des fonds.
Oui, absolument. Et puis,
qu'il plaçait,
d'avoir une vie là-bas. Ouais. Et donc son intelligence, parce que ça veut dire que il a menti à tout le monde pendant 20 ans. Et à chaque fois qu'il retrouvait une personne, c'est ce que nous avait dit ce psychiatre, il fallait qu'il reprenne l'histoire là où il l'avait laissée la dernière fois. Qui était un mensonge à chaque fois. Et il ne s'est jamais trompé. Personne ne s'est douté de quoi que ce soit. Jamais personne.
Je vous remercie beaucoup d'avoir évoqué avec nous aujourd'hui cette affaire Jean-Claude Roman. Merci Dominique Rizet. Merci Patrick Guillemin d'avoir accepté notre invitation. L'émission est maintenant terminée. On va retrouver Flavie Flamand dans quelques instants. À tout de suite.